Chapitre 11. Le lendemain, Brigitte, très tranquille sur le résultat de l'entretien, entra de bonne heure chez son père. Elle le troublait dans son travail, mais ne pouvait admettre de retarder plus longtemps un entretien aussi important, et déjà très blessée de n'avoir pas encore été questionnée, elle passa par-dessus les prières réitérées de M. Desponnets de ne jamais le déranger à une certaine heure. C'était prouver une grande inexpérience du jeu des impressions dans les circonstances les plus graves de la vie, car ce jeu, si complexe, nous entraîne à notre insu et nous décorons de noms flatteurs pour notre amour-propre des décisions qu'une futile impression a souvent influencées. En voyant entrer sa fille, M. Desponnets, qui ne se rappelait pas dans le moment sa conversation avec Rudal, « Je suis occupée, Brigitte, laisse-moi !» Il faut que j'achève ces corrections avant le déjeuner. Vous les terminerez plus tard, mon père. J'ai à vous entretenir d'une chose importante, importante pour moi du moins. Tu ne pourrais pas attendre, demanda-t-il d'un air ennuyé. Mais, mon père, il s'agit de mon avenir. Comment cela? Reviendrais-tu sur ton refus? Je crois pouvoir assurer que Duras, grâce à l'entremise... Il n'est pas question de Monsieur Duras. Interrompit Brigitte. « Mon refus est définitif. Je veux parler de M. Rudal, » dit-elle, subitement intimidée, en voyant que son père était si loin d'entrer dans sa pensée. « Allons bon !» s'écria M. Desponnets. « Et moi qui oubliais, que veux-tu dire ?»« Il m'est très sympathique et ce sentiment est réciproque. » L'affreuse taillanderie avait donc raison. Elle affirmait que tu te montais la tête pour Rudal. « Il ne s'agit pas de tête montée, » répliqua Brigitte, blessée. « Tant mieux. Au reste, je lui ai répondu que tu ne pouvais pas épouser un homme sans pain. Je lui en donnerai. Quelque petit que soit mon avoir, il nous fera vivre, lui et moi. Il aura d'ici peu, vous le savez, une brillante position. »« Brillante position? Où est-elle? Et s'il n'en obtient pas ce qui est possible et même probable ?» « De qui serais-tu la femme? D'un précepteur? D'un secrétaire de passage ?»« Il a gagné sa vie honorablement et vous faites le plus grand cas de son intelligence, de sa science qui vous sera très utile. Son mariage avec moi le posera et nous pourrions facilement vivre ensemble. »« Je suppose qu'il n'accepterait pas cette combinaison. Tout cela est enfantin. Je n'autoriserai jamais un mariage aussi absurde. » « Et si j'y tiens absolument ?» dit-elle. « Alors ?»« Alors, je verrai, mais dans quelques années, nous avons donc le temps d'y penser. Ainsi, laisse-moi. » Brigitte se retira sans discuter plus longuement, très déconcertée de l'accueil superficiel fait à son ouverture. Elle pensa que l'attitude de M. Desponnets confirmait le jugement de Rudal sur lui. Non seulement il n'avait témoigné à sa fille ni intérêt ni affection, mais sa réponse indiquait un parti pris. Déjà, lors de la demande de M. Duras, elle avait été très surprise de la décision de son père, si désireux du mariage qui se présentait et si nette dans son insistance. Elle se retrouvait en face du même contraste qui la déroutait et, dans la circonstance, l'irritait vivement. « Quoi ? Pas une question, pas un doute sur l'état de votre cœur, lui dit Rudal. Simplement un refus, avec une promesse illusoire, sans doute, et réalisable dans un temps indéterminé. Que faire, répondit-elle, je n'ai ni conseiller, ni ami. Madame Taillanderie m'appuierait-elle si je lui écrivais? C'est moins que probable, dit-il avec une certaine vivacité. Ne comptez que sur vous et sur moi. Il avait saisi l'impression favorable de la vieille femme et redoutait qu'elle n'employât son influence à combattre la résolution de M. Desponnets. « Comment agir ? » répétait Brigitte. « Est-ce le moment d'insister ? » ?»« Il n'en serait ni plus ni moins, telle est ma conviction. Du reste, en aurez-vous le temps ? M. Desponnets vous fera conduire chez Mme Taillanderie et nous serons séparés, peut-être pour toujours. » « Si je ne veux pas y aller, mon père ne me forcera pas. »« Alors, c'est moi qui partirai. Devant votre opposition, on me priera certainement d'abréger mon séjour ici et je ne puis refuser. c'est encore, et même beaucoup plus, la séparation. Que sait-on ? Il va oublier et nous serons ensemble. Nous avons fait notre devoir l'un et l'autre, c'est à mon père de décider pour le reste. » Mais, quelque distrait ou absorbé que fût M. Desponnet, il ne put secouer une préoccupation qui ne lui permettait pas de travailler, et il appela sa fille après le déjeuner. « Je désire, Brigitte, que tu ailles passer quelques semaines chez notre cousine. Pendant ce temps, j'achèverai mon livre avec Rudal. Ce sera le meilleur moyen de couper court aux propos qui circulent. » « Il n'y a pas que les propos, répondit-elle. Il y a mes sentiments qui subsisteront aussi bien aux petites buardières qu'à Noirpin. L'éloignement et la distraction te feront du bien. » « Pourquoi du bien ? En quoi ai-je besoin qu'on me fasse du bien ? Parce que je désire épouser M. Rudal que j'aime et dont je suis aimée, mais c'est un sentiment louable. » « Aimer, aimer ? Oui, oui, n'en parlons plus. Plus tard, nous verrons. » « Vous me traitez en enfant, » dit-elle en se contenant. « Et comment veux-tu que je fasse autrement, puisque tu vois la vie en enfant ?» La physionomie expressive de Brigitte confirmait le jugement de Duras quand il affirmait qu'à la douceur de la jeune fille s'alliaient des sentiments bien différents. Mais M. Desponnet n'eut garde de faire des observations aussi sagaces. « Je déteste Madame Taillanderie, » reprit Brigitte en dissimulant sa colère, « et je n'irai pas chez elle, je m'y trouverai trop malheureuse. »« Quelle situation ! » s'écria-t-il. « Je vais donc être obligé de renvoyer Dural au moment de toucher au but. »« Pourquoi le renvoyer ? » insinua-t-elle. « Nous ne parlerons plus de mariage, nous serons comme avant, en attendant mieux, en attendant que vous compreniez où est mon bonheur. » Mais M. Desponnet eut assez de bon sens pour conclure à l'impossibilité d'un tel arrangement. « Je ne t'oblige pas à aller chez ta cousine, mais tu vas écrire à ton ancienne institutrice pour demander d'être reçue dans la maison où tu as passé de bonnes années. En somme, tu y seras plus distraite que partout ailleurs, » ajouta-t-il d'un ton satisfait, « et moi, je serai complètement tranquille. » « Accordez-moi quelques jours pour réfléchir, » dit-elle, étreinte par une tristesse qui dominait l'irritation précédente. « Oh, si tu veux !» répondit-il imprudemment. Rudal approuva le nouveau projet de M. Desponnet au lieu de le combattre. « Chez Mme Taillanderie, bien que près l'un de l'autre, nous serions entièrement séparés. À Nantes, peut-être serait-ce différent, surtout si... »« Si ?» Si, étant majeur, vous vous décidiez à passer outre. Que voulez-vous dire par passer outre ? Passer sur la volonté de votre père, si cette volonté continue à être déraisonnable. Ne vous offensez pas de mes paroles. Quand vous les méditerez, vous verrez qu'elles sont remplies de bon sens. Ce serait bien grave, dit-elle timidement. Est-il défendu d'arranger sa vie et de chercher le bonheur ? Répéta-t-il adroitement. Cette réponse portait, il le savait, car elle touchait directement aux idées qui se précisaient peu à peu dans l'esprit de Brigitte. Le soir, il revint sur le même sujet. « Croyez-vous, lui dit-il, que le cas présent ne se soit pas présenté bien des fois ? Les parents n'ont aucun droit de tyranniser leurs enfants. « Oh, mon père est un tyran bien doux, il se contente d'être indifférent. » « C'est vrai, mais je préférerais la lutte ouverte. Il y aurait alors des chances pour moi. Comment agir contre la force d'inertie ? L'espoir ne nous est pas enlevé. » Mais elle n'osa pas continuer, le sourire sceptique de Rudal lui disant qu'il considérait comme vaines les promesses éventuelles de M. Desponnet. Il affecta de la consoler et il le fit avec une réelle sincérité car il l'aimait et la voulait. Et, indépendamment du sentiment qui les unissait, il avait sur elle l'ascendant de faculté dont elle exagérait la portée. Elle l'admirait et se reposait de plus en plus sur son jugement. Ses observations sur la vie pratique, sur les autres, sauf en ce qui concerne M. Duras, mais la jalousie l'aveugle, ont toujours été justes, pourquoi ne le croirais-je plus aujourd'hui ? Il juge bien mon pauvre père, et quand il affirme que l'attente imposée est un prétexte pour réduire à néant nos espérances, je pense qu'il peut avoir raison. Dans ces conditions, comment agir? N'est-il pas absurde de perdre tant de belles années qui devraient être heureuses? Si mon père ne voulait pas de mon mariage avec un homme sans fortune et sans position, pourquoi l'avoir admis dans notre intimité? On ne doit jamais céder à la déraison, m'a dit ce soir Laurent. Il a ajouté, vous ne ferez pas céder Monsieur Desponnets. Il n'exprimait pas toute sa pensée, je le voyais bien, mais je n'ai pas osé le questionner, et il s'est contenté de me parler tendrement, puis de me rappeler l'isolement qui va devenir sien après le bonheur entrevu. Oh, hormis le mal, que ne ferais-je pas pour lui éviter les tristesses dont il parlait hier avec sang-froid, mais si douloureusement? Comment comprendre les femmes qui, aimant, n'envisagent pas en face le sacrifice? Brigitte atteignait le point où voulait l'amener Laurent, point aisément atteint par une nature aimante, solitaire et imaginative. Néanmoins, ce fut après bien des préliminaires et des précautions, préparant habilement le terrain, qu'il vint à formuler ouvertement son désir. « Ah, si vous m'aimiez réellement !» lui dit-il, après avoir été tendre et insinuant. « Comment pouvez-vous douter ? » s'écria-t-elle. « Et pourquoi ce doute ?»« Parce que vous-même devriez penser à sortir de ce mauvais pas. »« Si je voyais un moyen !» J'en connais un, il n'est pas nouveau, mais il est sûr. Lequel donc? Allons nous marier en Angleterre. Et lui prenant vivement la main, pour accentuer et adoucir en même temps la hardiesse de sa proposition, il continua. Je vous conjure, chère Brigitte, de ne pas rejeter sans réfléchir un projet qui arrangerait tout. Monsieur Desponnets acceptera volontiers le fait accompli, mais il n'aidera pas à son accomplissement, croyez-le bien, ni maintenant ni plus tard. D'abord parce qu'il s'est fixé une ligne de conduite qui lui paraît bonne, ensuite parce que, absorbé comme vous le connaissez et amoureux de la paix avant tout, il ne se donnera pas la peine de modifier ses idées. Enfin, et surtout parce que, au fond, il veut votre mariage avec M. Duras et compte sur le temps pour arranger votre vie dans le sens de ses désirs. Le premier sentiment de Brigitte avait été de l'étonnement mélangé d'une vague stupeur. Mais, à mesure que Rudal parlait, avec un ton de certitude dont il prévoyait l'effet, elle se calmait, sans toutefois accepter la possibilité d'une solution aussi extrême. « Ce n'est pas faisable » s'écria-t-elle. « Pourquoi donc ? » dit-il en lui baisant la main. « Pourquoi donc ? » « C'est contraire au devoir, je le crains. » Contraire à toutes les convenances. Convenance, releva Rudal en glissant sur le reste. Qu'entend-on par convenance? Elles sont des lois établies par une société appelée à disparaître pour être remplacée par une nouvelle société qui donnera d'autres lois appelées convenances, contredisant les précédentes. Dans notre temps, il faut de l'initiative et de la volonté, non la soumission aveugle au destin. S'il eût parlé contre la soumission à un père, il eût froissé Brigitte. Mais il savait que le mot de destin, avec son sens vague et général, flattait une disposition de son esprit. En dehors de la morale, que Laurent écartait résolument, son raisonnement paraissait juste en théorie, bien qu'il fût parfaitement faux, puisque, appartenant à une société avec laquelle il nous faut vivre en harmonie, nous n'avons point à nous préoccuper des lois régissant les sociétés passées et à venir. Néanmoins, les paroles captieuses de Rudal impressionnèrent extrêmement Mademoiselle Desponnets. Que m'a-t-il dit? Et que dois-je croire? J'en suis encore tremblante. Cependant, il est certain que nous devons agir par nous-mêmes, et c'est trois fois certain pour moi, créature isolée qui ne doit compter sur personne. Pourtant, ce grand moyen me fait peur, bien qu'en même temps, il plaise à mon imagination. Je sais bien que mon père acceptera le fait accompli. Peut-être même ne serait-il ni mécontent ni froissé d'une initiative qui le débarrasserait de moi. Combien je m'étonne moi-même. Non seulement je ne regrette pas l'idée de Laurent avec antipathie, mais il semble qu'elle ait déjà traversé mon esprit. Comment ferions-nous? Il faudrait dissimuler, et c'est le point douloureux de la question. Vendredi. Sur de nouvelles instances, j'ai demandé à Laurent comment, si je consentais, nous aboutirions. Consentez, ma bien-aimée, consentez. Pourrez-vous fuir le bonheur? Pouvez-vous me rejeter dans l'enfer de l'isolement? Quand il parle de la sorte, mon cœur faiblit et je me sens prête à le suivre pour l'épouser, loin de mon père. Puis je pense à ma propre vie, à l'horreur que m'inspire la perspective de passer plusieurs années ternes et ennuyeuses, comme les tristes mois dont le souvenir me pèse, comme ces années de pension que mon père appelle bonnes. 100 fois plus malheureuse serais-je désormais. Mais comment ferions-nous? Répétai-je. Rien de plus simple. Soit que nous partions ensemble, soit que je vous suive de près, nous nous rejoignons à Paris, et de là, il faut 6 heures pour être à Londres. Ces explications, en précisant le projet encore vague, m'ont interdite et refroidie. Il n'a plus insisté, mais je l'ai vu si triste que seul j'ai pleuré. Monsieur Duras me blâmerait énergiquement d'écouter ainsi mon cœur avec tant de faiblesse. Du moins, c'est sans doute le mot qu'il emploierait. Je ne l'ai pas revu depuis notre discussion et il est parti. Où est-il allé? Samedi. Mon Dieu, que dois-je décider? Le fait de se marier en Angleterre pour vaincre une opposition déraisonnable est-il vraiment répréhensible? Laurent affirme que non, et pourquoi ne le croirais-je pas? Je manquerai aux convenances habituelles, c'est vrai, mais je ne ferai aucun mal. Comment supporter le malheur d'une longue séparation? Comment regarder en face, sans faiblir, les amertumes qui lui seraient épargnées par notre mariage immédiat? Quand une vie facile est assurée, comme celle de M. Duras, il est aisé de nier les besoins des autres, d'apprécier légèrement leur chagrin. Moi, je plains, parce que je connais la douleur des longues journées sans affection et sans appui, sans tendresse qui enveloppe et réconforte. Il est pauvre, il est malheureux, double raison de l'aimer, d'éprouver un bonheur inexprimable à se dévouer à lui. Me marier dans ces conditions anormales me coûte. Eh bien, ce serait un sacrifice pour celui que j'aime. Placée sur ce terrain, Brigitte devait aller vite. Que de fois, pour beaucoup, sans même que l'amour influence, l'éloignement du monde et des comparaisons exalte les idées et travestit brillamment un sentiment imaginaire que l'on prend pour du dévouement, souvent pour un martyr. Chez des natures comme celle de Brigitte, ce sentiment détermine promptement, dans l'esprit faussé, l'idée d'un devoir positif à remplir.